Écoutez, ça fait plaisir d'être avec vous. J'ai l'infime honneur d'être le seul conférencier que vous connaissez qui a un an de retard. Puisque, en semaine vague, hein, j'aurais dû être avec vous l'année dernière et j'ai chopé la grippe 3 jours avant. Donc j'ai un an de retard. Ça ne veut pas dire que la conférence sera 10 fois mieux qu'elle n'aurait pu être l'année dernière. Hein. Qu'on soit clair. Alors, déjà que je démarre ça, 30-35 minutes, c'est parti. Alors, c'est un petit peu difficile l'exercice historique, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Par exemple, je ne propose pas, contrairement à ce que j'avais dans l'idée jusqu'à il y a une semaine, de vous faire un développement historique des personnes et des idées, qui un petit peu sont au centre du transhumanisme, qui est qui. J'ai essayé, et honnêtement, ça ne rentre pas. On a 30-35 minutes, donc ça ne rentre pas. Ce que j'ai plutôt décidé, c'est de souligner deux ou trois aspects d'une histoire technologique et philosophique du transhumanisme. Pour le reste, peut-être dans le temps de questions, de bronze ou table ronde, hein, sinon il y a quand même pas mal d'informations en ligne concernant le transhumanisme maintenant. Le transhumanisme est un mouvement donc, culturel, scientifique et philosophique, ce qu'on oublie parfois, qui naît dans les... Il se cristallise hein, dans les années 70-80, bien qu'il ait racine dans les années 50, qui affirme, promeut la transformation radicale de l'humain par la technologie. Alors, la technologie en grande partie, bien que chez les transhumanistes, on peut trouver aussi certains biologistes qui ne travaillent pas du tout avec les techniques habituelles que, par exemple, Ray Kurzweil, qu'on a cité, peut lui-même défendre. Au cœur du transhumanisme, on trouve un réseau plus ou moins clair, complexe, relativement organisé maintenant, de personnes et d'institutions. Et dans cette présentation-là, donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu les choses sous deux angles historiques, deux types d'histoire. Le premier type d'histoire, c'est une histoire de la technologie, avec quelques aspects qui seront importants, on ne va pas tout faire, mais quelques aspects importants. La deuxième, c'est une histoire plutôt construite par le transhumanisme pour un petit peu se légitimer. Et on verra ensemble pourquoi se désir de légitimation. Premièrement donc, une histoire technologique. Alors l'histoire du transhumanisme est bien sûr dépendante d'un ensemble de facteurs historiques, l'histoire d'hommes, de femmes, d'institutions, mais c'est aussi une histoire qui est rattachée à un certain nombre de progrès technologiques. Sans progrès technologique du XXe siècle, il n'y aurait pas de transhumanisme. Alors, j'aurais pu vous parler de cet angle-là d'histoire de la technologie sous l'angle des fameuses NDIC que vous connaissez peut-être tous maintenant, mais redisons-le, l'unité technologique, la biotechnologie, les technologies, la technologie de l'information et les sciences cognitives. Les quatre grands types de technologies émergentes, on dit, alors, elles ont fini d'émerger, mais soit. J'ai choisi, en fait, de ne pas parler de ces quatre-là maintenant, mais de trois autres sciences ou technologies qui sont en fait constitutives de ce qu'appelle le transhumanisme à long terme. La première technologie sur laquelle vraiment le transhumanisme va se fonder et duquel va se nourrir, c'est la robotique, en particulier son développement à partir de l'apparition des premières tentatives hein, de construction de entre guillemets, vrais robots au XXe siècle. Et au début du XXe, entre les années 1901, 2 et les années 20, c'est les premiers pionniers, précurseurs qui vont construire ces premiers robots-là, cherchaient notamment à vérifier une hypothèse importante qui était que la meilleure façon de comprendre et de construire un vrai robot, ce qu'on appellerait peut-être maintenant une vraie vie artificielle, n'était pas de penser, de raisonner, de construire d'une manière analogique à l'ingénierie, la mécanique, mais premièrement à la biologie, voire même à la psychologie. Donc il y a aussi un changement par rapport, par exemple, aux automates du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est la grande différence entre un automate et un robot. Et c'est ça qu'on voit au début du XXe. Les premiers roboticiens, en fait, ont suivi l'intuition d'un grenoblois Jacques Aucamson, qui était un ingénieur du XVIIIe siècle, et qui avait construit donc, un automate, mais qui était précurseur en son temps, inspiré du système sanguin, donc biologie. Parmi les robots de la première génération, c'est notamment celui qui est là, Céléno, le robot, le chien électrique, conçu par Amand Dinesner en 1915. Il était unique en son temps parce que justement il était guidé par la lumière. C'est le premier de sa génération. Parallèlement à cela, on a les travaux du psychologue Edward Van Dyck qui ont permis de considérer la construction de robots sur l'apprentissage répondant à la triade essai, erreur et succès clientèle. Et cette forme-là d'apprentissage qu'Edward Van Dyck considérait comme étant l'apprentissage normal de l'enfant. L'enfant apprend comme ça, il n'apprend pas de manière théorique, mais il essaie et ça réussit. Ben, si ça réussit, c'est que ça marche. Donc, à partir de là, on procède à un apprentissage plus élaboré. Cette première révolution de la robotique a ouvert la voie aux robots plus complexes qui peuplent notre imagination, peut-être nos rues, nos aéroports un jour, hein, mais au minimum, notre imagination et nos films. Hein. Tous les films, à peu près, sont basés là-dessus. Alors, il s'agit d'une étape importante de la robotique parce qu'elle constitue l'une des deux ou trois, peut-être même, l'une des trois approches globales de la création de robots ou de l'intelligence artificielle. Au lieu de programmer ce que les robots vont faire et doivent faire, on va les laisser apprendre de leurs erreurs de la même manière que les êtres humains. Alors, si tous les chercheurs en robotique, et il faut que ce soit clair quand même, ne sont pas des transhumanistes, l'essentiel du mouvement transhumaniste, lui, se fondent sur ces premières intuitions en les radicalisant et en allant beaucoup plus loin. Et le transhumanisme prend par exemple l'observation que tout comportement est appris, et en particulier de l'environnement, pour souligner qu'alors, conclusion transhumaniste, il n'y a pas de différence d'apprentissage ou de constitution entre le robot et l'humain. Vous voyez, là ils font un pas supplémentaire. C'est pas seulement l'apprentissage, la constitution même qui est identique. Et tous les chercheurs en robotique ne feraient pas ce pas-là. C'est typiquement un pas transhumaniste. Le transhumanisme, en fait, conclut assez rapidement que les humains ne seraient donc pas différents de leurs homologues artificiels. Les humains, les robots, fonctionnent d'une manière similaire, voire identique, notamment parce qu'ils sont tous les deux des êtres purement matériels. Et là, le transhumanisme trahit déjà une certaine présupposition, une position fondamentalement matérialiste. D'après les recherches actuelles sur le mouvement, le réseau transhumain, c'est à peu près 96 à 98% de ceux qui se disent transhumanistes. Hein. Ces premiers robots, cependant, ne seraient jamais devenus les machines que nous voyons parfois dans l'actualité sans l'apport d'une autre science, qui se développe aussi au XXe siècle, dans les années 40-50 pour sa première étape, la cybernétique, théorie de la communication et du contrôle hein, de l'homme et de la machine. Bien que nous n'ayons pas là le temps aussi de développer toute l'histoire de la cybernétique, c'est un petit peu complexe, d'ailleurs j'en ai pas les capacités scientifiques non plus, je me contenterai de souligner un ou deux points importants, notamment dans la première étape du développement de la cybernétique dans les années 40 à 50. Ce que Catherine Hayes, dans son livre « Comment nous sommes devenus post-humains » appelle la première vague de la cybernétique. Première étape qui va du début des années 40 jusqu'au milieu des années 50. Et cette première vague, cette première période de la cybernétique est marquée historiquement par les grandes conférences MESI qui ont été tenues de 1946 à 1953 à New York. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'on voit une avancée, une théorie majeure proposée et qui va diriger aussi la recherche en cybernétique, mais le transhumanisme vraiment dans une direction bien particulière. Quel est ce point particulier de cette première étape de la cybernétique? C'est la théorie de l'information. C'est la première chose qui va être théorisée et avancée. Et en particulier, par l'intermédiaire, en fait, sous la direction presque géniale de ces deux hommes, le premier Norbert Wiener et Claude Shannon, qui vont tous les deux proposer une théorie de l'information qui considère que l'information elle-même n'a pas comme objet premièrement le sens qui est communiqué, mais le signal lui-même, la donnée matérielle presque. Hein. C'est pas le sens qui compte dans l'information, c'est le signal qui est envoyé, le signal matériel. L'information donc ne concerne pas premièrement le sens de ce qui est communiqué. C'est pas l'essentiel de ce qu'est l'information. Shannon dira par exemple que les mots eux-mêmes ne véhiculent pas de sens. C'est pas là qu'il faut chercher le sens. Alors, de cette affirmation-là, le transhumanisme, là aussi, parfois radicalise très souvent ce qui est dit, et il va considérer que du coup, l'information que nous sommes, hein, on est des êtres d'information, peut être transposée radicalement et uniquement en langage informatique, en ligne de code, en suite de 0 et de 1. Et ça aussi, c'est un positionnement, vous voyez, bel et bien matériel, matérialiste. Il n'y a que la matière et tout est réductible à un ensemble de chiffres. D'où la conviction transhumaniste que la personnalité, ma mémoire, tout ce que je suis, peut être mis dans une longue ligne, hein, c'est bon, une longue ligne de code, et après mis dans une machine, et la machine, c'est moi. Alors, sans surprise, cette théorie de l'information n'a pas été acceptée de manière universelle, sans critique. Le physicien anglais Donald Mallet, par exemple, qui était professeur à Cambridge à même époque, a lui tenté de proposer une théorie de l'information en opposition à celle de Wiener et Shannon, pour montrer que l'information était toujours en rapport avec ce qui était communiqué et avec quelque chose qui était extérieur à l'information. C'est une information à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Et le sens est à l'extérieur aussi. Malheureusement, enfin, personnellement malheureusement, c'est bien la théorie de Wiener et Shannon qui a prévalu et qui a placé à la fois la cybernétique et le transhumanisme dans une perspective qui peut être problématique, en tout cas certainement problématique, pour ce qui est du transhumanisme, voire même pour nous, peut-être la théorie elle-même de Shannon, qui disait par exemple qu'il n'y a pas de lien nécessaire à la question du sens et qu'une information est premièrement une fonction de la théorie mathématique des probabilités. Peut-être que ça, c'est un problème philosophique pour nous. Alors, à première vue, vous allez me dire, ça semble être qu'un subtil désaccord entre être sphères. Cependant, cette différence est très importante, plus qu'il n'y paraît peut-être. En effet, si l'information n'est que matière, alors nos pensées, tout ce que nous sommes, notre capacité rationnelle elle-même, hein, notre capacité à raisonner, peut légitimement être interprétée comme un simple ensemble d'interactions matérielles, voire d'interactions biochimiques. Plus important encore, bien que la nature de notre production d'informations chez nous, notre cerveau, ou celle d'un robot, vos circuits, soient en fait matériellement différentes, en fait, la différence ne serait qu'une différence de degré, une différence de matière. Et en fait, on serait tous matière. Mais matière comme la mienne ou celle d'un robot, ça ne changerait pas grand-chose, en fin de compte. Là aussi, on revient à la similarité quasiment radicale entre humain et machine. Avec une conséquence importante, c'est que la pensée, vos pensées, sont entièrement réductibles à cet organe matériel qui est votre cerveau. Il n'y a rien d'autre à la pensée humaine que ce qui se passe dans le cerveau. Et en ce sens, Ray Kurzweil, le pape ou le prophète, j'ai tendance à dire souvent à mes étudiants, le prophète du transhumanisme est bel et bien matérialiste, hein, et il conclut que nous ne sommes que des automates. On est des machines organiques automatisées, on est des robots humains. Alors là, les transhumanistes clergés n'ont aucune honte à vous dire ça, mot à mot, quasiment.
Troisième technologie importante
dans le développement du transhumanisme, c'est la reproduction moléculaire, présentée par Eric Drexler dans un premier temps, et qui sera augmentée et modifiée par Eric Drexler. Réplication moléculaire, hein, l'idéal que nous pourrons créer un jour, un assembleur moléculaire qui pourra tout créer, hein, et agencer des molécules jusqu'à l'échelle de l'atome. Le problème technique actuel pour la réalisation de cela, c'est que, selon toute vraisemblance, ça coûte extrêmement cher un tel assembleur. D'où l'espoir de certains transhumanistes qu'un tel assembleur moléculaire puisse se répliquer lui-même. Hein? Réplication moléculaire. On en construit un qui coûte très cher, mais comme après il travaille tout seul et qu'il en crée d'autres, en fait, le coût global va décroître en fonction du nombre d'assembleurs que le premier va créer. À partir de cette première idéale, Ray Kurzweil va conclure une chose importante. C'est que si on a ce processus de décroissance exponentielle du coût d'un réplicateur moléculaire, on a en parallèle une croissance exponentielle de l'intelligence des ordinateurs. En se basant là-dessus sur la loi de Moore qui disait, intuition, que le nombre de transistors dans un circuit intégré doublait tous les deux ans et que donc l'intelligence d'une intelligence artificielle doublerait aussi tous les deux ans. Ray Kurzweil fait quoi à partir de ça? Il va nous dire, regardez le graphe exponentiel qui est là. À un moment donné, la courbe de croissance est inarrêtable. Sauf que ce n'est pas le mathématicien qui a fait le graphe ici, parce que le point d'inflexion, il n'est pas en rouge là-haut, hein, il est beaucoup plus bas, mais bon, soit. À un moment donné, c'est inarrêtable. Et l'intelligence artificielle devient incomparablement supérieure à l'intelligence humaine. C'est la singularité, hein, dans le langage de Kurzweil du transhumanisme. Mais qui se situe beaucoup plus bas si on fait une vraie fonction exponentielle. La convergence de la robotique, de la cybernétique et de la réplication moléculaire, en fait, se cristallise donc du coup dans une possibilité très distincte. Le cerveau humain, peut être recréé en tant que cerveau artificiel qui va produire de l'information, qui n'est que purement matériel. De plus, cette intelligence-là qu'on va recréer va croître de manière exponentielle, à un moment deviendra inarrêtable, et on aura créé un autre être qui ne sera pas vraiment humain, parce que ça peut être l'ordinateur, ça peut être une fusion humain-machine, mais la différence qualitative entre nous et cette autre chose sera telle qu'il faut parler d'un autre être. C'est pour ça que le transhumanisme parle aussi parfois d'un post-humain. Et là, on est dans le transhumanisme parce qu'on est dans la période de transition, et à un moment donné, on a autre chose. On est après. On est post-humain. Il y a une petite confusion de langage dans le transhumanisme, parce que parfois, il parle de transhumanisme, parfois de post-humanisme. Donc, attention à cette question de langage. On voit en fait le rêve transhumaniste, hein, le rêve technologique du transhumanisme. Vous voyez déjà qu'il y a une première ligne philosophique là, qui est celle d'une position matérialiste, hein, qui est fondamentale au transhumanisme.
Le transhumanisme,
c'est aussi une histoire construite. Si le transhumanisme présente une réalité technologique, ce mouvement aussi prit conscience dans les trois dernières décennies qu'il avait toujours tendance à sous-estimer ses racines historiques. Et on sait tous que se rattacher à l'histoire participe de la légitimité de qui on est, et de la légitimité d'une institution ou d'une philosophie. Hein? Rien ne tombe du ciel. Le transhumanisme, pendant un certain temps, avait eu tendance à se voir comme le messie technologique qui arrive à partir de rien. Ce qui a changé les trois dernières décennies. Et les transhumanistes ont tendance maintenant à parfois construire leur propre histoire de deux manières, d'une manière mythologique et d'une manière philosophique.
D'une manière mythologique, premièrement, en se rattachant à certains grands mythes de l'histoire humaine. Par exemple, dans son Histoire de la pensée transhumaniste, Nick Bostrom, l'un des principaux penseurs du transhumanisme, commence le récit transhumain par l'épopée de Gilgamesh. Alors, il aurait pu prendre n'importe quel autre mythe ou légende, grecque ou romaine, présentant la lutte des hommes contre les dieux. Il y en a une flopée. Il aurait pu commencer avec Prométhée, par exemple. Hein. Alors, à mon sens, Bostrom commence par Gilgamesh pour peut-être deux raisons. Premièrement, ce mythe est l'un des plus anciens. Et ça permet peut-être symboliquement au transhumanisme de se rattacher à l'histoire de l'humanité. Et de dire que finalement, ce à quoi le transhumanisme répond, c'est aux désirs les plus profonds de l'humanité elle-même. C'est pas nouveau, c'est simplement l'adaptation technologique actuelle au grand rêve d'immortalité de l'humanité. Ce qui en fait n'est pas réellement faux. Deuxième raison, le mythe de Gilgamesh repose sur un thème central que Bostrom identifie comme étant identique à l'histoire humaine et au transhumanisme. Et là, c'est très clair pour Bostrom, c'est, je cite, « le désir humain d'acquérir de nouvelles capacités ». Et Bostrom voit cela comme étant central à l'épopée de Gilgamesh. Alors, on ne va pas étudier l'épopée de Gilgamesh ensemble pour voir si effectivement, son interprétation du mythe est bon ou pas. À mon sens, pas vraiment. Quoi qu'on puisse, peut-être très brièvement, souligner quelques grands traits de cette épopée. Gilgamesh, roi d'Uruk, se lance dans la quête de l'immortalité. Au début de sa quête, hein, Gilgamesh se rend dans un jardin dans lequel il espère trouver une plante précieuse qui puisse conférer cette immortalité-là, pour découvrir que ce n'est pas le cas. Désespéré, en fait, Gilgamesh reçoit la sage exhortation de Siduri, une figure de la sagesse féminine, qui explique que l'angoisse ressentie devant la mort n'est que le résultat du rejet du don des dieux. On désire l'immortalité parce qu'on rejette le don des dieux. Une leçon qui semble être simple. Gilgamesh ne peut pas obtenir l'immortalité. Mais cette impossibilité de l'immortalité n'est pas dû à une faute de sa part ou à un défaut de capacité. Les humains ne sont tout simplement pas faits pour la vie éternelle. Ça semble être une leçon importante de l'épopée de Gilgamesh. Cette conclusion est vite passée sous silence par le transhumanisme. Nick Bostrom, par exemple, se contente de souligner le désir d'immortalité qu'on a tous, et donc il est légitime que le transhumanisme réponde à ce désir-là. Vous voyez que là, il y a peut-être une question d'interprétation. On pourrait même dire que le transhumanisme, en fait, est né, nourri d'un désir de pouvoir et d'opposition à la mortalité et à la finitude. Hein. Ça fait partie des grands désirs du transhumanisme. D'ailleurs, Bostrom disait, et là je cite aussi Bostrom dans son histoire du transhumanisme, « les êtres humains préhistoriques étaient troublés par la mort d'être cher. » Oui, certainement. D'ailleurs, les êtres humains n'ont pas changé, en tout cas pas encore au Boston. Mais ce n'est qu'une question de temps, car nous avons maintenant le pouvoir technologique de vaincre la mort. Et alors, un auteur qui s'appelle FN 2030, il a changé légalement son nom, donc c'est son vrai nom. Donc on peut sourire une première fois, mais vous, quand je citerai FN 2030, c'est un vrai nom. Donc pour FN 2030, hein, si la mort est naturelle, pourquoi se soumettre à cette tyrannie? On peut la rejeter. Alors il y a beaucoup d'autres mythes qui sont invoqués par le transhumanisme, mais Gilgamesh est le premier. De toutes les légendes et mythes, le transhumanisme s'empresse de conclure, encore une fois, non sans fondement quand même, que l'humanité a toujours rêvé d'immortalité, voire même de créer la vie. L'humanité a toujours désiré allonger sa vie et devenir plus qu'elle-même. Hein, un désir d'être autre chose. On voit nos limites et on veut être plus que nos limites. Et en ce sens, en fait, le transhumanisme n'a pas vraiment tort. Hein. Bon, dans la vie, ça participe de l'idolâtrie humaine. Hein. On veut atteindre quelque chose qui ne nous appartient pas. Nous transformer nous-mêmes. Le lien historique créé par le transhumanisme entre ses racines récentes dans les années 50 Et toutes les épopées légendaires et mythologiques participent d'une tentative, je l'ai dit tout à l'heure, de légitimation historique, pour se donner un ancrage historique, une légitimité même intellectuelle. Le transhumanisme, en fait, en faisant cela, c'est assez ironique là aussi, a commencé à créer sa propre mythologie. Voulant se créer une histoire, le transhumanisme crée une mythologie moderne, une mythologie du XXIe siècle. L'humain qui, ayant rêvé d'immortalité, par les progrès constants et son ingéniosité constante, va un jour, maintenant ou dans 30 ans, pouvoir vraiment atteindre cette immortalité-là. L'élixir de la vie éternelle n'est pas loin. Mais le transhumanisme, c'est aussi une construction philosophique. Alors, le transhumanisme tente de construire son histoire en se rattachant philosophiquement à la période de la Renaissance et des Lumières. Alors, attention, là, ce rattachement philosophique est beaucoup moins évident et explicite dans le transhumanisme que les premières, technologiques et mythologiques, parce que le transhumanisme est premièrement un réseau de penseurs qui ne sont pas des philosophes, qui parfois explicitement ne veulent pas réfléchir comme des philosophes, et qui en fait ne peuvent pas s'en empêcher. Donc c'est très implicite comme rattachement. Alors quelques traits caractéristiques de la philosophie de la Renaissance et des Lumières démontrent une certaine ascendance moderne du transhumanisme. Ce dernier, notamment c'est un des grands penseurs comme Bostrom, identifie plusieurs points de repère importants, notamment le premier, le discours sur la dignité de l'homme de Pic de la Mirandole, en 1486, où, dans cet ouvrage classique de la Renaissance, le philosophe florentin proclamait que l'homme n'avait pas reçu de nature fixe de la part de son créateur. L'homme est responsable de lui-même, est responsable de devenir ce qu'il veut être. Il n'y a pas de nature humaine fixe. On choisit de devenir ce qu'on veut être. C'est pour ça que, disait-il, je cite, l'homme est le mieux loti des êtres animés, digne par conséquent de toute admiration, parce que justement, la dignité de l'homme, c'est qu'il n'est pas prédéterminé par son créateur. Et de cela, le transhumanisme prendra, on verra plus tard, la position importante qu'il n'y a pas de nature humaine. Il n'y a pas une nature humaine que nous partageons tous. Dieu s'adresse ainsi à l'être humain, dit interprète de la Mirandole, et là aussi je cite, si nous ne t'avons fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni mortel, ni immortel, c'est afin que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait ta préférence. Et honnêtement, là, dans la dernière phrase, Pic de la Mirandole, c'est l'aïeul du transhumanisme, en caricature anglaise. On a le pouvoir de se modeler soi-même. On n'est rien de particulier, on n'est ni mortel ni immortel. On choisit, on se façonne nous-mêmes. C'est l'une des définitions les plus courtes qu'on pourrait prendre du transhumanisme. Le transhumanisme va aller plus loin et donc proclamer qu'il n'y a pas de nature humaine et que donc on devrait avoir la liberté de faire ce qu'on veut avec notre corps. Que transhumanisme appelle la liberté morphologique. Si je veux, par exemple, c'était un cas légal qui était il y a 3-4 ans, j'aurais dû prendre la référence aux États-Unis ou en Australie, où une personne avait porté plainte contre l'équivalent de la sécurité sociale parce qu'il voulait remplacer son bras sain par un bras artificiel. Bien sûr, la Sécu refuse de payer, quoi. C'est pas une question médicale. Mais la personne argumentait, enfin, si je me souviens bien, ses avocats argumentaient qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de transformer qui il est. Et si je veux mettre une artificielle, parce qu'une artificielle, elle est éternelle, elle se change éternellement, alors que la mienne, un jour, elle va plus marcher. On n'a pas le droit d'empêcher de faire ça. Liberté morphologique radicale. Ça aussi, c'est typique du transhumanisme. À côté de cela, le transhumanisme puise aussi dans la philosophie du XVIIIe, philosophie du 18e, c'est le terreau matérialiste par excellence. Hein.
Notamment,
Julien-André Lamétri, dans son livre L'homme-machine, qui est publié en 1748, hein, et de Lamétri écrivait ainsi, là aussi je cite, « L'homme n'est qu'un animal, ou un assemblage de ressorts, qui tous se montent les uns avec les autres, sans qu'on puisse dire en quel point de du cercle, de la mécanique humaine, la nature a commencé. On est un complexe assemblage de mécaniques. » Vous voyez, le langage artificiel est aussi déjà bien présent, allié à un fort matérialisme, matériel que de la métrique considérée comme fondamentale à la nature humaine. Et c'est cela que le transhumanisme va aussi reprendre, modifier, radicaliser. Hein. Radicaliser. Là aussi, fort matérialisme, mais perfectibilité infinie de l'humanité. Donc, on n'est rien de fixe, et en plus, on peut se perfectionner à l'infini. Donc là, deux pôles déjà, dans l'histoire philosophique. Et à ces deux pôles, le transhumanisme en rajoute un troisième, dans la période des Lumières, c'est la définition que Kant donne de la période des Lumières dans son livre au titre très poétique « Qu'est-ce que les Lumières ?» donc 1784, donc peu après, dans lequel Kant définissait les Lumières comme quoi l'homme devenu enfin majeur. Il pense, il vit par lui-même. Il n'a plus besoin de s'appuyer sur quelque chose qui soit autre que lui-même ou qui le dépasse. Ou qui le transcende. L'homme est réellement majeur. Donc, les Lumières, c'est la sortie de la minorité humaine. Une sorte d'autonomie humaine. L'homme est enfin autonome. Et là, le transhumanisme prend ces trois points. Donc, il n'y a pas de nature fixe. Comme il n'y a pas de nature fixe, on n'a pas de limite, on peut se perfectionner à l'infini, et en plus, on peut le faire parce qu'on est réellement autonome. Il y a nous et nous-mêmes. Et donc, on peut y aller. Tout participe de notre désir premièrement. Hein, au sens plein du terme, l'être humain devient loi à soi-même, autonome. Il devient loi à soi-même. Alors vous voyez, en conclusion, le transhumanisme se présente souvent comme un courant scientifique et technologique, lié bien sûr à l'utilisation des MBIC, mais aussi de ces trois technologies principales que j'ai mentionnées, robotique, la cybernétique et la réplication moléculaire. Mais il est important de voir que le transhumanisme, bien qu'il se considère et se présente comme purement et simplement l'utilisation de la technologie pour l'amélioration de l'homme et l'amélioration de nos conditions de vie, le transhumanisme est en fait beaucoup plus que ça. Là, parfois, il y a un coup médiatique fantastique du transhumanisme où, écoutez, nous, on travaille pour le bienfait de l'humanité. En fait, il y a autre chose dans le transhumanisme, notamment un positionnement philosophique. Le transhumanisme, c'est donc, on a dit, premièrement, c'est une construction mythologique. Le transhumanisme, c'est une mythologie moderne qui se présente comme une évolution normale et logique de l'histoire humaine. Alors, cette prétention doit être remise en cause. Hein. Dans la perspective apologétique, notre interaction critique entre foi chrétienne et transhumanisme, il faudra remettre en cause cette interprétation de l'histoire. Il faudra dire et trouver les mots pour dire que le transhumanisme réinterprète l'histoire. Ce n'est pas une interprétation, c'est une relecture, c'est une réinterprétation en profondeur de l'histoire. Et ça, il faudra trouver les mots, les manières de pouvoir le dire, de pouvoir le présenter. Le transhumanisme, c'est aussi un mouvement puisant dans le rationalisme des Lumières. Et honnêtement, dans ce sens-là, il faut interagir de manière, dans notre dialogue critique, de la même manière qu'avec le rationalisme des Lumières. Dans ce sens-là, il n'y a parfois que peu de différence entre la manière dont le transhumanisme approche la nature et la raison humaine et le point de vue de la maîtrise, peut-être de Kant par la suite. Le problème, c'est que, avec une vue purement matérialiste, le transhumanisme est incapable de justifier de l'autorité de la raison ou de l'autorité de notre capacité rationnelle. L'origine de cela, le transhumanisme ne peut l'expliquer. Si vous voulez, il peut vous expliquer scientifiquement ce qui se passe là-dedans. Et il y a des choses incroyables qu'on découvre constamment, et les sciences cognitives nous disent des choses qui sont impressionnantes. Et ça, il faut le dire, hein. Il ne faut pas se méfier par définition de toutes les sciences ou de toutes les technologies dites émergentes. Et en même temps, le transhumanisme, vous voyez, scie un petit peu la branche sur laquelle il est assis, de la capacité rationnelle, parce qu'en faisant de ce qui se passe là-dedans simplement une série d'interactions chimiques, parfois hasardeuses, le transhumanisme, en fait, ne peut faire de notre capacité rationnelle que des opinions personnelles, qu'on prend ou qu'on laisse. Il n'y a aucune autorité réellement à ce que le transhumanisme essaie de nous présenter. C'est un livre plus ou moins gentil échange d'opinions. En fait, la foi chrétienne offre une vue directement différente, et la seule réponse qu'on peut donner à l'origine de notre capacité rationnelle, c'est exactement l'inverse. On n'est pas que matière. Certainement, il y a un processus matériel qui se passe dans notre raisonnement. On ne peut pas le nier. Et en même temps, la réponse définitive qui est donnée même par des grands philosophes des sciences, je cite Alvin Plantinga par exemple, qui est l'un des grands noms, c'est qu'on a été créé pour connaître. En fait, la capacité rationnelle dépasse notre matière. C'est quelque chose qui a été créé pour nous et en nous par Dieu. Et ça aussi, la foi chrétienne, on devra donc trouver les moyens de le redire, de le vivre aussi, hein, pas que la parole, de le vivre pleinement. La capacité rationnelle, elle n'est pas l'essence de qui nous sommes, mais elle participe bel et bien de ce que nous sommes comme êtres créés par Dieu. Hein? Alors on parlera de l'image de Dieu, je crois que Peter Robinson parlera de l'image de Dieu, hein. L'image de Dieu ne se réduit pas à la raison, comme l'a souvent pensé en grande partie aussi à la période médiévale, voire la Réforme, mais certainement tout ce que nous sommes, y compris notre capacité à raisonner, participe de cette image de Dieu que nous sommes. Et ceci, ça fait partie des positionnements apologétiques que nous devons absolument rappeler, parce que ça fait partie fondamentalement de ce que le transhumanisme est. Un point de vue matérialiste, rationaliste finalement, qui ne peut donner d'explication à ce que nous sommes en tant qu'être humain. On ira un tout petit peu plus loin dans ma deuxième conférence cet après-midi. On verra un petit peu quels sont les aspects de cette nouvelle main que le transhumanisme promet, et on remontrera ensemble qu'en fait, le transhumanisme ne peut pas justifier ce qu'il veut faire. Il y a une impossibilité là. Pour reprendre ce qui Mignicot disait tout à l'heure, il y a une impossibilité fondamentale au projet transhumain qui vient en grande partie des limites qu'il impose à l'être humain, limites matérielles, notamment, on verra tout à l'heure, de grands problèmes qui touchent notamment la rationalité humaine, l'identité humaine, notre nature, notre avenir. Et donc je mets trois petits points de suspension ici maintenant à la fin de cette première présentation. Merci.
Merci. Alors on a le temps pour une ou deux questions. Il y aura la table ronde cet après-midi, donc on aura plus de temps pour les questions. Mais s'il y a une ou deux questions maintenant sur ce que Yannick vient de présenter, on peut passer le micro.
Bonjour et merci pour cet exposé. Vous avez évoqué des aspects philosophiques, c'est un mouvement scientifique. Moi, je trouve que comme scientifique, ça ne tient pas la route, mais en même temps, ça a un impact énorme. Et vous mentionnez aucun aspect économique, Postbase à l'envoyer Google.
Aucun aspect
économique.
Économique, oui.
Parce que plus que scientifique, c'est technologique. Et technologique, c'est des compagnies, c'est de l'argent, c'est de l'impact sur les gens. Oui. Et est-ce que ça ne donne pas une résonance bien supérieure au mouvement que ces opinions scientifiques et philosophiques?
Oui, alors effectivement, j'aurais pu parler de l'aspect économique. Hein. C'est vrai que le transhumanisme. est un réseau qui est incroyablement complexe et financièrement puissant aussi, hein. Très flou, donc les ramifications sont encore difficiles à comprendre. Alors, il y a des économistes, hein, qui s'identifient au projet transhumain. Robin Hanson, qui était économiste, hein, s'associe indirectement au projet transhumaniste. Le transhumanisme a aussi bénéficié de large financement à cause du domaine de recherche dans lequel il se trouve. Hein. Et là, c'est difficile de faire la part entre l'aspect économique ou financier du transhumanisme en tant que tel et l'aspect financier ou économique qui provient des conséquences du domaine dans lequel le transhumanisme travaille. Par exemple, René Brooks, qui travaille dans l'un des plus grands labos de recherche robotique, bon, très grand financement. Ben, ce qui est financé, c'est le transhumanisme ou c'est ce laboratoire-là en particulier? Ben, l'un et l'autre, les deux, c'est pas le transhumanisme en tant que tel, et en même temps, Brooks, c'est l'un des grands leaders dans son domaine. Hein. Si vous intéressez à ça, les robots Cog et Kismet, ça fait partie des grandes avancées récentes, d'après ce que je comprends. Et en même temps, c'est pas sa philosophie qui est fondée financièrement. Par contre, vous avez des figures du monde de la technologie qui ont des fonds personnels impressionnants. Elon Musk, hein, par exemple, dans une interview pas les plus médiatisées quand même, n'hésite pas à se rattacher plus ou moins explicitement à l'idéal transhumain. Tim Cook, donc Google, Apple, hein, pareil. Alphabet, donc, qui maintenant chapeaute Google, Sundar Pichai, pareil, hein, c'est les fonds vont de l'un à l'autre. Martine Rothblatt, qui est la plus grande milliardaire actuellement, elle fait partie des grandes femmes dans le transhumanisme, avec la fondation qui s'appelle TerraCell, qui promeut la recherche en vue d'une vie éternelle. Donc finalement, il y a une ramification financière importante, avec aussi des implications pratiques, hein, dans la recherche qui sont importantes. Et c'est vrai que ça participe de la force de ces réseaux transhumanistes. À mon sens, c'est pas la première force du transhumanisme, elle n'est même pas là. Ça, c'est les derrière de la scène, qui sont très importants. Mais la première force du transhumanisme, c'est son pouvoir d'imagination sociale. C'est l'imagination du robot. Grosso modo, la première chose que les gens voient, c'est pas ce qu'il y a derrière. Hein. C'est vos films, vos romans et vos séries télé. C'est la première chose que les gens voient. Et donc, le robot humain, c'est ça la force d'imagination du transhumanisme. C'est là où il y a une force d'impact. Du coup, c'est là où on a le plus de difficultés, nous, chrétiens, à répondre à ça. Quelle est notre force d'imagination sociale, hein. Je pense qu'il y en a, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre.
Bonjour, Eric Lemaître. Je fais l'analogie avec le premier exposé qui était développé par Emile Nicole et le vôtre. Je pense qu'il faut souligner l'avancée de la mathématisation de la pensée dans le monde. Et c'est bien ce point-là qui doit nous alerter, car quand on regarde la civilisation sumérienne, vous avez deux auteurs, historiens, Jean Bottero et Roger Caratini, qui ont travaillé, qui sont des spécialistes de la syriologie, et qui ont travaillé sur la dimension mathématique de la civilisation sumérienne, qui était extrêmement avancée. Ils avaient même créé la pile. Et on leur doit énormément de tables trigonométriques que l'on découvre aujourd'hui. Et le parallèle que l'on fait avec la société transhumaniste, elle se fonde sur le pouvoir et la dimension des algorithmes qui vont gérer l'ensemble des data de la vie sociale et vont les organiser. Donc il y a un lien, je pense que c'est votre exposé que vous développerez cet après-midi, il y a un lien avec la dimension de l'intelligence artificielle qui vient gérer, coloniser toute la vie sociale. Donc ça, c'est un aspect ce doute qu'il faudrait souligner, je dirais, dans l'avènement du transhumanisme, qui vient comme une totalisation de la vie humaine.
Oui, hein, j'ai beaucoup mis l'accent sur le fait que le transhumanisme est un point de vue matérialiste, hein, rationaliste, mais aussi, vous rappelez, c'est un petit peu le résultat des premières intuitions en robotique et en cybernétique, notamment en première période de la cybernétique. En fait, Kurzweil, Bostrom, Hans Moravec, un petit peu moins, mais vont conclure que finalement, notre conscience, c'est quoi ? Notre conscience, c'est un algorithme complexe. Après tout, un langage informatique, c'est une forme de langage mathématique. Donc du coup, on est des maths. Et finalement, l'information communiquée, encore une fois, c'est une suite de 0 et de 1, pour simplifier. Et il n'y a rien de plus. Donc effectivement, la mathématisation de l'humanité, ça participe de ce qu'est l'idéal transhumaniste.